L'Aude, où Guillaume et Séverin examinent le cadavre de Béranger, découvrent qu'il a la langue noire, chose singulière pour un noyé. Puis ils discutent de poisons très douloureux et d'un vol du temps passé.
Je ne m'attarderai pas à dire comment nous informâmes l'abbé, comment toute l'abbaye se réveilla avant l'heure canonique, les cris d'horreur, l'épouvante et la douleur qu'on voyait sur le visage de chacun, comment la nouvelle se propagea dans tout le peuple de la plaine, avec les servants qui se signaient et prononçaient les formules de conjuration. Je ne sais pas si ce matin-là le premier office se déroula selon les règles, et qui y prit part. Moi, je suivis Guillaume et Séverin, qui firent envelopper le corps de Béranger, et donnèrent l'ordre de l'allonger sur une table dans l'hôpital. Une fois l'abbé et les autres moines éloignés, l'herboriste et mon maître observèrent longuement le cadavre, avec la froideur des hommes de médecine. « Il est mort noyé, » dit Séverin. « Il n'y a point de doute, le visage est enflé, le ventre est tendu. » « Mais il n'a pas été noyé par quelqu'un d'autre, » observa Guillaume. « Sinon, il se serait rebellé à la violence de l'homicide et nous aurions trouvé des traces d'eau répandues autour de la baignoire. Au contraire, tout était bien ordonné, propre. Comme si Béranger avait fait réchauffer l'eau, rempli la baignoire et s'y était installé de sa propre volonté.
« Voilà qui ne m'étonne guère, » dit Séverin.
Béranger souffrait de convulsions. Et je lui avais dit moi-même à plusieurs reprises que les bains tièdes servent à calmer l'excitation du corps et de l'esprit. Plusieurs fois, il m'avait demandé l'autorisation d'accéder au balnéa. C'est ce qu'il aurait pu faire cette nuit ?
La nuit précédente, observa Guillaume. Car ce corps, tu le vois, est resté dans l'eau un jour au moins.
Il est possible que ça se soit passé l'autre nuit,
convint Séverin. Guillaume le mit en partie au courant des événements de cette nuit-là. Il ne lui dit pas que nous étions allés furtivement dans le scriptorium, mais en lui cachant diverses circonstances, il lui dit que nous avions poursuivi une silhouette mystérieuse qui nous avait dérobé un livre. Séverin comprit que Guillaume ne lui racontait qu'une partie de la vérité, mais il ne posa pas de questions. Il observa que l'agitation de Béranger, si c'était lui le voleur mystérieux, pouvait l'avoir poussé à chercher la tranquillité dans un bain restaurateur. Béranger, observa-t-il encore, était de nature très sensible. Parfois, une contrariété ou une émotion lui provoquait des tremblements, des sueurs froides. Il roulait des yeux et tombait par terre en crachant une bave blanchâtre. « En tout cas, dit Guillaume, avant de venir ici, il s'est rendu ailleurs, car je n'ai pas vu dans les balnéas le livre qu'il a volé. »«
Oui, confirmai-je, avec une certaine fierté. J'ai soulevé sa vêture qui croupissait à côté de la baignoire et je n'ai trouvé trace d'aucun objet volumineux. »«
Bien, me sourit Guillaume. » Donc, il s'est rendu quelque part, ailleurs, puis admettons toujours que pour calmer son agitation et peut-être pour se soustraire à nos recherches, il se soit glissé dans les balnéas et se soit plongé dans l'eau. Séverin, juges-tu que le mal dont il souffrait était suffisant pour lui faire perdre l'essence et entraîner la noyade ?
Ça se pourrait, hésita Séverin. D'autre part, si tout est arrivé il y a deux nuits, de l'eau aurait très bien pu verser autour de la baignoire et sécher par la suite. Ainsi, nous ne pouvons exclure qu'il a été noyé de vive force ?
Non, dit Guillaume. As-tu déjà vu un assassiné qui, avant de se faire noyer, ôte ses vêtements ?
Séverin branla du chef comme si cet argument n'avait plus grande valeur. Depuis quelques instants, il examinait les mains du cadavre.
Voici une chose curieuse, dit-il.
Quoi ?
L'autre jour, j'ai observé les mains de Venantius quand on lavait son corps du sang qu'il recouvrait. Et j'ai remarqué un détail auquel je n'avais pas donné beaucoup d'importance. Le bout de deux doigts de la main droite de Venantius était foncé comme noirci par une substance brune. Exactement, tu vois, comme à présent le bout des deux doigts de Béranger. Et même en ce cas, nous avons quelques traces sur le troisième doigt. Alors j'ai pensé que Venantius avait touché des encres dans le scriptorium.
« Très intéressant, » observa Guillaume tout pensif, en regardant de plus près les doigts de Béranger. L'aube se levait, la lumière à l'intérieur était encore faible. Mon maître souffrait évidemment du manque de ses verres.
« Très intéressant, » répéta-t-il.
L'index et le pouce sont foncés au bout, le médium seulement sur la partie interne et faiblement. Mais il y a des traces plus faibles sur la main gauche aussi, au moins sur l'index et sur le pouce.
S'il ne s'agissait que de la main droite, ce seraient les doigts de qui saisit quelque chose de petit, ou de long et de mince.
Comme un stylet, ou un aliment, ou un insecte, ou un serpent, ou un ostensoir, ou un bâton, ou trop de choses. Mais s'il y a des signes sur l'autre main aussi, ce pourrait être encore une coupe, tenu solidement dans la droite, quand la gauche collabore avec une moindre force. Séverin s'était mis à frotter légèrement les doigts du mort, mais la couleur brune ne partait pas. Je remarquai qu'il avait enfilé une paire de gants dont il se servait probablement quand il manipulait des substances toxiques. Il reniflait, mais sans en tirer aucune sensation. Je pourrais te citer beaucoup de substances végétales et minérales aussi, qui provoquent des traces de ce type. Certaines létales, d'autres pas. Les enlumineurs ont parfois les doigts maculés de poudre d'or.
Adelme était enlumineur, dit Guillaume. J'imagine que devant son corps fracassé, tu n'as pas pensé à lui examiner les doigts. Mais eux, ils pourraient avoir touché quelque chose qui avait appartenu à Adelme.
Je ne sais vraiment pas, dit Séverin. Deux morts, tous deux avec les doigts noirs. Qu'en déduis-tu ?
Je n'en déduis rien. Nil sequitur, geminis ex particularibus unquam. Il faudrait ramener les deux cas à une règle. Par exemple, il existe une substance qui noircit les doigts de qui la touche.
Je terminai triomphant le syllogisme. Vénantius et Béranger ont les doigts noircis, ergo ils ont touché cette substance.
« Bien, Atso, dit Guillaume. Dommage que ton syllogisme ne tienne pas debout. Car aut semel aut iterum medium generaliter esto. Et dans ce syllogisme, le moyen terme n'apparaît jamais comme général, signe que nous avons mal choisi la prémisse majeure. Je ne devais pas dire « tous ceux qui touchent une certaine substance ont les doigts noirs », car il pourrait exister aussi des personnes avec les doigts noirs et qui n'ont pas touché la substance. Je devais dire « tous ceux et seulement tous ceux qui ont les doigts noirs ont certainement touché une substance donnée. Vénantius et Béranger, etc. Avec quoi nous aurions un Dari, un excellent troisième syllogisme de première figure.
Alors, nous avons la réponse, dis-je tout content.
Hélas, Atso, comme tu te fies au syllogisme, nous avons seulement et de nouveau la question. En somme, nous avons émis l'hypothèse que Vénantius et Béranger ont touché la même chose, hypothèse à coup sûr raisonnable. Mais une fois que nous avons imaginé une substance qui, seule entre toutes, provoque ce résultat, ce qui est encore à vérifier, nous ne savons ce qu'elle est, ni où ceux-ci l'ont trouvée, et pourquoi ils l'ont touchée. Et note bien, nous ne savons pas même à la fin si la substance qu'ils ont touchée est ce qui les a conduits à la mort. Imagine qu'un fou veuille tuer tous ceux qui touchent de la poudre d'or. Dirions-nous que c'est la poudre d'or qui tue ?
J'en demeurai troublé. J'avais toujours cru que la logique était une arme universelle, et je m'apercevais maintenant combien sa validité dépendait de la façon dont on en usait. Par ailleurs, en fréquentant mon maître, je m'étais rendu compte, et je m'en rendis de plus en plus compte dans les jours qui suivirent, que la logique pouvait grandement servir à condition d'y entrer et puis d'en sortir.
Séverin, qui n'était certes pas un bon logicien, réfléchissait cependant selon sa propre expérience.
« L'univers des poisons est varié comme variés sont les mystères de la nature, » dit-il.
Il montra une série de vases et de flacons qu'une fois déjà nous avions admirés, disposés en bon ordre sur les étagères le long des murs, avec quantité de volume.
« Comme je te l'ai déjà dit, nombre de ces herbes dûment composées et dosées pourraient fournir des boissons et des onguents mortels. » Voici là-bas le Datura stramonium, la belladone, la ciguë. Elles peuvent procurer somnolence, excitation, ou bien l'une et l'autre, administrées avec prudence, ce sont d'excellents médicaments. En doses excessives, elles entraînent la mort.
Mais aucune de ces substances ne laisserait des marques sur les doigts.
Aucune, je crois.
Ensuite, il y a les substances qui deviennent dangereuses uniquement si on les ingère, et d'autres qui agissent au contraire sur la peau.
L'hélébore blanc peut provoquer des vomissements chez qui le saisit pour l'arracher de terre.
Le dictamé est le sceau de Salomon qui, quand il est en fleur, provoque de l'ivresse chez les jardiniers s'ils le touchent, comme s'ils avaient bu du vin. L'hélébore noir, à le toucher seulement, provoque la diarrhée. D'autres plantes donnent des palpitations du cœur, d'autres de la tête, d'autres encore ôtent la voix. Par contre, le venin de la vipère appliqué sur la peau sans qu'il pénètre dans le sang ne produit qu'une légère irritation. Mais une fois, on me montra une mixture qui, appliquée sur la partie interne des cuisses d'un chien près des organes génitaux, provoque la mort de l'animal en un court laps de temps, au milieu de convulsions atroces, les membres se roidissant peu à peu.
« Tu en sais long sur les poisons, » observa Guillaume, dont la voix paraissait trahir une grande admiration. Séverin le fixa, et quelques instants soutint son regard.